Laughter!
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 90, l'émission sur la famille contemporaine via la voix des pères. Alors aujourd'hui, une étude de cas extrêmement simple mais douloureuse. Vous avez une séparation qui se passe mal, l'un des deux parents convainc, fait de la pression psychologique sur les enfants, emmène ceux-ci au commissariat et dépose une plainte hallucinante contre l'autre parent dans le but de produire cette plainte au tribunal familial afin de retirer le droit de garde et les droits parentaux à l'autre parent. Et c'est à ce moment que la machine s'emballe et que, comme nous le constatons malheureusement extrêmement souvent, les différentes institutions sont défaillantes, mettent du temps et, en l'occurrence, nous avons l'histoire de Fabien qui vient de faire condamner l'État pour déni de justice parce qu'on lui a empêché sans raison de voir ses enfants durant de nombreux mois. C'est une affaire que nous suivons depuis un certain temps avec l'association. D'ailleurs, vous en avez entendu parler lors de la retranscription d'un Facebook Live il y a quelques mois, quelques années, avec notamment Monsieur Claude Néris. Alors, cette émission aujourd'hui sera dédiée à l'étude de cas et de ce jugement où l'État est condamné pour déni de justice. Une émission suivante fera appel à des professionnels et à des avis afin de savoir dans un tel cas comment faut-il se comporter envers les enfants, parce que, à mon avis, ils sont traumatisés et effectivement, ils ont souffert de pression psychologique énorme dans une telle situation. Il va donc falloir s'en occuper médicalement. Et également, comment le parent doit réagir et comment il faut aussi que lui s'occupe de lui, parce que je vous assure, se retrouver au commissariat avec un papier disant que votre enfant vous a accusé de choses absolument insensées et de mots terribles, cela fait un choc et il faudra aussi regarder comment on fait pour aider les parents victimes à passer à travers cette étape. C'est donc l'émission d'aujourd'hui, c'est cruel, c'est douloureux, mais c'est la réalité de la France du 21e siècle, où les institutions parfois viennent regarder de tout un petit peu ce qui se passe ici et là, mais n'ont absolument pas les moyens, les effectifs, ni les structures pour mettre en œuvre les politiques qu'ils voudraient appliquer. Voilà, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Alors, RLP 102.3, aujourd'hui avec Fabien qui est en ligne. Bonjour Fabien, ça va ?
Oui, bonjour, ça va très bien, merci.
Alors, vous avez une affaire qui est extrêmement intéressante parce que vous avez réussi à faire condamner l'État pour déni de justice. Alors, avant d'arriver à cette conclusion, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé. Et là, si on prend, on va regarder un petit peu, allez, 5 minutes pour faire le déroulé de l'histoire jusqu'à la fin.
D'accord, j'étais marié, donc j'ai deux filles, nées en 2012 et 2013. Donc je suis en instance de divorce depuis presque 2 ans maintenant. Donc, au départ, mon ex-femme a signé en ordonnance de protection pendant le premier confinement, donc en mars 2020, et elle a été déboutée début avril 2020. Par la suite, elle m'a signé en ordonnance de conciliation, comme moi aussi, on a tous les deux déposé une requête. Et l'ordonnance de conciliation a eu lieu en juillet 2020 et en août 2020, malheureusement, le juge a ordonné un droit de visite en lieu neutre, pour ma part, de 1h30 à 3h, dans un espace rencontre qui s'appelle donc c'est le seul qui est dans le nord du département.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes séparés, voilà. Elle ne voulait plus que vous voyiez vos enfants, c'est ça ?
Exactement, donc je sais pas.
Il y a eu des NRE ou pas ?
Non, enfin, ça dépend ce que vous appelez NRE. Parce que,
alors, en fait, NRE, c'est non-présentation d'enfants, c'est un droit de garde qui n'est pas respecté.
Donc pour faire simple, vu qu'il n'y avait pas encore eu l'ordonnance de conciliation, en fait, elle est partie avec les enfants du domicile familial.
D'accord.
Elle estimait que j'étais violent envers elle et envers mes enfants.
Elle est partie en vous accusant de certaines choses et elle n'a pas, pas voulu vous donner les enfants que vous les voyez avant le jugement.
D'accord. Okay. Avant le jugement. Donc, il y a eu des accords entre avocats pour que je puisse quand même les voir quelques heures par semaine, parce que, au fur et à mesure, j'essayais de, entre guillemets, gratter, il n'y a pas d'autre mot, pour voir mes enfants du maximum possible. Et à la fin, juste avant l'ordonnance de conciliation, j'arrivais quand même à les voir un week-end sur deux et aussi 2 midis par semaine, étant donné qu'elle était partie un peu plus loin de l'établissement scolaire des enfants et vu que moi j'habitais encore le domicile familial, ça semblait logique que les enfants viennent manger à la maison midi, surtout pendant les périodes de confinement. Il n'y avait pas de cantine scolaire, donc c'était.
Donc, elle est arrivée au tribunal avec une accusation. accusation, uniquement voilà, une accusation.
D'accord. Une accusation, parce qu'en fait, oui et non. C'est-à-dire que pendant qu'on était séparés, elle allait à la rencontre de la cellule VIF, qui s'appelle cellule violence intrafamiliale de... Et en fait, les enfants ont répété à la pédopsychiatre comme quoi je me levais la nuit pour les taper. Moi, je sais que c'est faux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et il a fallu avoir un an d'enquête, des expertises psychiatriques de toute la famille, des expertises pénales, pour au final, ça a été classé sans suite, et ça a mis un an avant d'être classé sans suite, à l'été 2021. Tout ça pour dire, en fait, que sur la base du signalement du pédopsychiatre, avant que l'affaire soit classée sans suite, le juge des affaires familiales de Saint-Malo a préconisé un droit de visite en lieu neutre, pour ma part, sur les seuls faits que les enfants aient dit ça au pédopsychiatre, alors que les enfants étaient âgés de 6 et 7 ans.
Donc, d'accord. Bon. Là, c'est intéressant parce qu'on va faire une émission dédiée par rapport à ça aussi, sur les fausses accusations. Ça veut dire qu'en fait, il a suffi que votre ex parte en disant il est méchant, il est vilain, pour que le juge d'affaires familiales, en fait, cautionne le fait que vous ne voyez plus les enfants et dise que vous puissiez les voir ensuite uniquement via des visites médiatisées. Alors, pour expliquer aux gens, normalement, ça servait ce genre de choses à étudier les rapports dysfonctionnants quand ça marchait pas. Et aujourd'hui, c'est utilisé pour réduire les droits de visite du père le plus souvent, d'ailleurs, en lui disant bah, tu pourras voir tes enfants un petit peu, mais avec, comme pour les drogués, des gens qui te regardent quand tu les vois. C'est ça, hein ?
Effectivement, donc, vraiment, avant d'en arriver là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après, derrière, moi, j'ai fait un recours au Conseil de l'Ordre des médecins et que, du coup, la pédopsychiatre a reconnu qu'elle a dû faire part de présomption de violence et non pas de violence. En fait, elle a répété, j'ai dit les enfants, sans m'avoir rencontré réellement, sans m'avoir écouté, quoi. Faut que je puisse me dire, voyez, faites attention.
Elle a écouté qu'ils ont écouté que la mère et les enfants. Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, les conseillers ordinales, c'est comme ça que ça s'appelle, après, ont mis en place la vérité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait son job de la bonne façon, tout simplement. Donc, du coup, je voyais les enfants qu'en espace de rencontre, mais ça a mis plus de 4 mois et demi avant que ce soit mis en place. Mon ex-femme est partie au mois de mars 2020, et le mois de juillet, où il y a eu l'ordonnance de conciliation, je les ai vus aussi que très peu de fois, vu que madame refusait, entre guillemets, un planning de garde alterné que je demandais à mettre en place avant l'ordonnance de conciliation. Elle avait refusé. Et en fait, vu qu'elle avait les enfants, par des courriers d'avocat, elle disait « Bon, moi, je te dépose les enfants que quelques heures dans le week-end, mais pas plus. » Mais je voulais pas mettre les enfants aussi dans des situations conflictuelles intenses. Donc je voulais pas qu'ils soient...
Surtout quand ils commencent à être remontés et qu'ils racontent des trucs, c'est dangereux pour eux. Donc on se pose toujours la question, vous savez, on en discute beaucoup entre nous, à droite et à gauche. Faut-il vraiment insister ? Jusqu'où faut-il insister sans endommager les enfants ? C'est une question qu'on se pose tous.
Oui. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, mais après je me dis non, je pense que j'ai bien fait, parce qu'au moins les enfants ont vu que je n'ai pas été dans l'excès, c'est-à-dire que je n'ai pas poussé mon ex-femme en gardant les enfants, en allant les chercher à l'école, puis en les gardant pour moi. Et
forcément, vous n'avez pas dépassé la ligne rouge, vous n'avez rien fait d'illégal, très correct, vraiment... vous n'avez jamais levé la voix et vous n'avez jamais pris d'initiative malheureuse en fait.
Voilà, exactement.
Ok. Donc, seconde partie de cette affaire, en fait, donc on va récapituler un petit peu. Madame est partie, ne voulait pas donner les enfants, elle donne un petit peu, elle arrive devant le JAF avec ses accusations, donc d'enfants de 6 et 7 ans qui ont dit certaines choses. À la suite de ça, le JAF, lui, vous m'avez dit, demande à un point rencontre médiatisé, une association, de mettre des rencontres comme cela entre vous et les enfants. C'est fait, ça ?
Ouais, c'est ça. Alors, les visites ont été mises en place à partir de décembre 2020. Donc, entre le mois d'août 2020 et le mois de décembre 2020, je n'ai pas vu mes enfants de manière officielle. Au bout de plusieurs mois, au mois d'octobre, j'en pouvais plus de plus voir mes enfants, parce que je trouvais ça tellement injuste de ne pas avoir aucun contact, ni téléphonique, parce que j'ai demandé à avoir des contacts téléphoniques avec mes enfants, ou en visio, tout simplement, en demandant directement à mon ex-femme qui refusait, ou même par le biais de courrier officiel.
Donc l'association en charge des rencontres.
Donc ils me disent que sur le jugement, c'est de 1h30 à 3h, mais qu'ils vont abaisser mon droit de visite à 1h à cause du Covid. Je trouve ça très déplacé de leur part, réduire à 1h, sachant qu'en plus, le premier rendez-vous, on est surveillé, éduquer, hein, y a pas d'autre mot, hein, à part un éducateur. Mais c'est vrai que c'est pas naturel, c'est, moi, je me suis effondré, hein, je vous dis honnêtement, je me suis effondré lors de ce premier rendez-vous où j'ai pleuré devant mes filles du fait de le revoir et en plus d'être sous surveillance alors que j'ai fait leur éducation, que je suis quelqu'un de normal, stable, j'ai une situation correcte, je suis fonctionnaire, je suis ingénieur d'études en informatique à l'université. J'ai toujours été un père responsable, présent auprès de mes filles, et de me savoir là-dedans, sachant que j'ai vu les autres papas et les autres mamans, enfin j'ai vu surtout vu d'autres papas où ça pleure, où on se sent surveillé, et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas, il faut le vivre hein, de toute façon, ce genre de...
Alors quel a été le problème par la suite avec l'association ?
Alors le problème, c'est que quand je les ai contactés au mois d'août, parce que c'est mis dans le jugement qu'il fallait prendre contact avec l'association pour pouvoir mettre en place des visites, l'association me dit oui, il n'y a pas de place avant le mois, enfin il y a une liste d'attente, avec plusieurs dizaines de parents qui attendent d'avoir, d'exercer leurs droits, et ils me disent il n'y a pas de place avant le mois de décembre. Donc du coup, bah, je ne suis pas content, pour faire simple. Donc j'écris au juge en disant, là, il y a une difficulté que je souhaite évoquer, c'est qu'il n'y a pas de place avant le mois de décembre, ça veut dire que je vais rester plusieurs mois sans voir mes filles, et qu'en plus, mon ex-femme refuse que je les ai au téléphone ou en visio. Donc faites quelque chose, intervenez. Et j'ai aucune réponse du JAF.
On leur écrit et puis après ils nous racontent qu'il faut pas leur écrire parce qu'ils sont dessaisis et puis que tout ce qu'on leur donne doit être... Non mais c'est ça en fait, hein. Ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'écrire au juge, le juge en fait est dessaisi, le juge n'instruit et n'exerce que lorsqu'il est en train d'auditionner ou de rendre son jugement et que tout ce qu'on lui donne doit être communiqué à l'autre partie. Donc en fait on n'a pas d'interlocuteur réellement quand ça marche pas.
D'accord. Donc du coup, je demande aussi à l'association, je me renseigne un petit peu sur Internet, sur comment ça se passe pour exercer un droit de visite quand il y a des listes d'attente, etc. Donc je contacte aussi ce qu'on appelle les CDAS, c'est les centres départementaux d'action sociale. C'est ceux qui, par exemple, qui s'occupent des informations préoccupantes ou des choses comme ça.
Moi, je comprends.
Donc je leur demande, est-ce que vous pouvez mettre en place des visios, étant donné que l'espace rencontre n'a pas de place et qu'ils refusent de mettre en place des visios, parce que je leur ai demandé aussi de mettre en place des visios. Ils ont refusé en prétextant qu'ils n'avaient pas le matériel adéquat, en attendant que je puisse voir mes filles réellement dans l'espace rencontre. Et donc les CDAS dit que ce n'était pas possible non plus. Donc du coup, en abaissant mon droit de visite à une heure, en refusant les visios, et en plus le JAF, dans son jugement du mois d'août, n'avait pas mis de date de fin sur mon droit en lieu médiatisé.
D'accord.
Fait que ça faisait trois choses que je trouvais pas normales. Et donc je me suis renseigné notamment avec l'association SOS Exclusion Parentale.
Oui, Claude Néris qui monsieur... intervient ici régulièrement également, effectivement. Ouais.
Voilà, donc qui me dit, mais monsieur, attaquez l'État.
Et on a dû se croiser sur, d'ailleurs, on va le dire aux gens, moi je connais le dossier parce qu'on a dû se croiser aussi sur une webcam, on a dû faire une conférence.
Et on avait évoqué aussi le rectorat, vu que l'école en fait, toujours pas, enfin on va peut-être pas réévoquer l'histoire ici, mais pour faire simple, on avait saisi le rectorat qui avait du coup nous avait donné raison, parce que le directeur de l'école n'avait pas à prendre des décisions sur le fait que je n'avais pas le droit de m'approcher de l'école.
Oui, le directeur de l'école n'a pas à prendre parti pour l'un des deux parents, malheureusement c'est ce qu'ils font tout le temps, et l'un des deux parents il va les voir avec une plainte, en se plaignant de quelque chose, ça les affole, et il faut sauver le soldat Ryan après, et puis nous on est exclus, on ne peut plus accéder à nos enfants, c'est un grand classique, hein, c'est pas que vous. Hein.
Oui, c'est ce qui s'est passé, le rectorat m'a donné raison, en levant email interdiction qui m'avait été faite par le directeur de l'école. Mais en fait, je suis vraiment passé par toutes les épreuves possibles. Hein,
je comprends. Alors donc, vous avez attaqué l'État parce que l'association médiatisée n'a pas pu mettre en place avant 4 mois vos droits qui avaient été attribués par le JAF et en plus, ça permet de les réduire, c'est ça ?
Et donc, il a aussi réduit mon droit et aussi parce qu'il n'y avait pas de date de fin pour les droits du site en espace médiatisé.
Tout à fait.
Donc, la partie adverse, l'État, pour se défendre, indique que l'espace rencontre n'est pas dans le champ de compétence de l'État. Que si je dois attaquer quelqu'un, c'est l'association et non pas l'État. Mon avocate a dit, non, c'est comme les services probatoires d'insertion et de probation. Il y a un agrément de l'État, et donc du coup, l'espace rencontre a aussi un agrément de l'État, donc du coup, il agit pour l'État. Donc là-dessus, c'était clair, c'était gagné. Sur le délai, le juge qui a jugé notre affaire estime en fait que 4 mois et demi d'attente, c'est pas si long que ça pour eux.
Oui.
Moi, je m'étais renseigné.
Pour les enfants de 6 à 7 ans, oui, bien sûr. Non, je disais pour les enfants de 6 à 7 ans, c'est sûr que 4 mois et demi, c'est pas long.
Oui. En fait, un déni de justice, d'après mes recherches, ça peut se faire à partir de 3 mois. C'est-à-dire que toute décision judiciaire, si elle met plus de 3 mois pour être mise en place, on peut estimer qu'il y a un déni de justice dès lors que ça dépasse les 3 mois. Donc, moi, j'estimais qu'à 4 mois et demi, on dépasse les 3 mois, donc du coup, ça pourrait être recevable.
Bien sûr.
Et quand on lit le délibéré de mon jugement, c'est plus ou moins recevable, hein, quand même, les 4 mois et demi. Ils disent pas oui, ils disent pas non. Enfin, je sais plus le terme exact, mais ils m'ont pas donné totalement tort, en fait, sur le délai.
D'accord.
Donc, si jamais ça arrive à d'autres personnes, par exemple, 6 mois d'attente, je pense que là, c'est jouable.
Donc là, je suis devant le jugement, hein, que j'ai lu. Tribunal judiciaire, au demandeur, monsieur Fabien. Défenseur, agent judiciaire de l'État, donc c'est vraiment vous contre l'État. Et effectivement, ils ont constaté qu'il y avait une défaillance et vous avez gagné. Vous avez fait condamner l'État en déni de justice. C'est bien cela.
C'est ça. C'est bien cela. Alors, ils m'ont donné raison sur l'abaissement du droit de visite, c'est-à-dire qu'un espace de rencontre n'a pas le droit de baisser un droit de visite. Il n'y a que le juge qui a le droit de le faire. Donc, si jamais il y a des personnes autour de vous qui ont vu leur droit de visite réduit par l'espace de rencontre, ils n'ont pas le droit de le faire. Il n'y a qu'un juge qui peut se rejuger d'une certaine façon et baisser le droit. Voilà. Donc, ça, c'est important parce que c'est assez rare. La deuxième chose, c'est sur la date de fin. Un juge qui n'a pas mis de date de fin, c'est pareil, c'est indigne de justice. Quand on met un droit de visite dans le médiatisé, il faut toujours une date de fin. Donc, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, mais il faut qu'il y ait une date de fin. L'absence de date fait que forcément une incertitude sur et c'est préjudiciable pour la personne. Et sur le délai, ben, comme je vous disais, en fait, ils n'ont pas retenu ça réellement comme un préjudice, mais ils m'ont pas donné totalement tort non plus sur le délai de mise en place. Alors, un délai de 4 mois écoulé entre la décision de justice et la première visite effective aux enfants, si elle peut être vécue comme excessive par le parent en attendant une reprise de lien avec eux, n'apparaît pas être déraisonnable dans un contexte de reprise d'activité de l'espace de rencontre après une période de confinement national décidée par le décret du 16 mars 2020. En fait, ils partent du principe que vu que c'était entre le mois de juillet et le mois de décembre, étant donné que l'espace de rencontre est fermé au mois d'août, et étant donné qu'il y a eu un deuxième confinement, il part du principe que les 4 mois et demi d'attente, c'est pas si long que ça. Mais bon, on sera pas forcément en confinement toute notre vie. Hein,
Oui, et puis non, mais de toute façon, l'État se protège. Hein, c'est un réflexe institutionnel. Il est extrêmement difficile de réussir à faire condamner l'État. Hein, c'est très dur.
Bah, de ce que j'ai compris, oui. Moi, au départ, je demandais pas de dommages et intérêts, mais mon avocate me dit que si je veux travailler avec un avocat, il faut toujours demander une somme supérieure à 5 000 euros. Parce qu'autrement, un avocat, en fait, ne peut pas intervenir s'il n'y a pas un dommage intérêt supérieur à 5 000 euros. Donc, vu que moi, je m'entends très bien avec mon avocate, que je voulais qu'elle travaille pour moi, donc du coup, bah, faites ce que vous voulez. Donc, elle avait quand même demandé 6 000 euros, mais bon, on n'a rien reçu en termes de dommages d'intérêt.
Non, 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 déclare l'État responsable des dommages causés à M. Wald à raison d'un dysfonctionnement des services publics de la justice constitué par un déni de justice. C'est quand même marqué. Ouais. Et condamne l'agent judiciaire de l'État à payer M. Fabien Wald la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Voilà, et 800 euros sur l'article 700, donc remboursement des frais de procédure, parce voilà, que, ça, en fait, très clairement, on va le dire, sur le simple fait d'accusation, la machine judiciaire n'a pas défendu vos droits et vous n'avez pas pu être en lien avec vos enfants durant plusieurs mois uniquement parce que l'institution n'a pas été capable de fonctionner. C'est ça, en fait, le cœur du
oui, oui, c'est exactement ça. C'est
il faut quand même le dire. Bon, d'accord.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Aujourd'hui, vos enfants, comment ils vont ?
Alors, aujourd'hui, j'ai un droit de visite de 6 heures toutes les 2 semaines en dehors des espaces rencontres, mais avec point de remise des enfants toujours à l'espace de rencontre. En fait, je suis étant donné que l'enquête pénale a été close.
Alors, l'enquête pénale a été close, vous avez été innocenté ou
Voilà, c'est ça. J'ai été innocenté, donc ça a été classé sans suite. Donc, j'ai saisi un juge.
Voilà. Donc, vous avez des accusations qui étaient fausses. Est-ce que vous avez réussi à avoir la preuve qu'elles étaient fausses ?
J'ai que le procès verbal de conciliation avec le conseil de l'ordre des médecins, disant qu'il aurait dû faire part de présomption. Après, j'ai pas la preuve, à part que le procureur a pris en compte, j'avais des enregistrements, comme quoi mes filles disaient que c'était maman qui leur demandait de mentir ou des choses comme ça. Donc, le procureur en a tenu compte, et c'est pour ça qu'il a classé sans suite. Après, je sais pas ce que vous appelez preuve concrète, mais...
C'est des enregistrements de vos filles qui disent ça, mais on sait que les enfants, en fait, suivent le parent avec qui ils sont, et ils protègent le parent qui s'identifie comme étant le plus faible, donc ils sont le parent qui leur fait le plus gros chantage émotionnel, en fait, hein, sera protégé par l'enfant. Enfin, c'est un processus qu'on maîtrise bien. Mais dans votre affaire, quand même, ce qui est hallucinant, c'est une fois de plus, hein, vous êtes confronté à des accusations. Vous savez qu'elles sont calomnieuses, mais d'autres ne le savent pas. En attendant, l'État qui veut intervenir et se mêler de tout, on va dire, n'est pas capable de grand chose et vous ne voyez pas, vous n'avez pas de lien avec vos enfants durant extrêmement longtemps. L'État est condamné pour cela et après, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait absolument rien. C'est ça, hein ?
C'est-à-dire que là, j'ai ressaisi un juge à partir du moment où l'enquête pénale était classée sans suite, donc c'était à l'été dernier. Oui. Mais il y a un délai d'attente de 7 mois à chaque fois entre en moyenne pour pouvoir même concerner en procédure d'urgence. Et le pire, c'est que donc je suis passé en audience devant le JAF au mois de novembre. Le délibéré devait être rendu le 14 janvier Et on a reçu un courrier du juge comme quoi il proroge son délibéré au 22 février. Donc il respecte même pas son délai de délibéré, le juge. Ouais, donc du coup, j'aurai la décision, donc là je demande toujours la garde alternée, que le 22 février. Donc,
est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir réussi à faire condamner l'État, a rendu les acteurs plus dynamiques, plus efficaces dans votre dossier?
Pas vraiment, pas pour l'instant. La seule chose que je constate, c'est que l'espace rencontre, le dialogue n'est pas terrible avec eux. Voilà.
Ils n'ont pas aimé et vous le reprochent, c'est
ça ? Ils n'ont pas aimé. Ils le reprochent plus ou moins. Il y a même un moment, ils avaient écrit au juge en disant qu'ils voulaient arrêter le droit de visite.
Ouais, on a des cas comme ça aussi, où la communication passe mal avec l'espace.rencontre, et l'espace.rencontre décide tout seul, comme un grand, comme ça, d'interrompre les droits du parent à voir ses enfants.
Et en fait, sur la base de rien du tout, parce que ça se passait toujours très bien entre moi et mes filles dans l'espace rencontre. Preuve en est, c'est que 2 semaines avant qu'ils fassent ce courrier au juge comme quoi ils veulent arrêter le droit de visite, ils faisaient une attestation comme quoi ça se passait bien, que les enfants sont contents de me voir, que les enfants jouent avec moi, que les enfants sont tristes de me voir partir.
Ils se sont fait sonner les cloches après
cette affaire-là. Voilà, par mon ex-femme, je pense.
Et par l'institution aussi, qui a dit parce que l'État n'aime pas être condamné. L'État n'aime pas être condamné du tout, parce qu'avec ça, vous allez au tribunal administratif, vous pouvez avoir des dommages et intérêts. Hein. Je pense qu'au TA, il faudra en parler avec Claude, mais vous avez un jugement comme ça qui condamne l'État.
Oui.
Le tribunal administratif.
Je suis pas sûr que ça se tente. Bon, je ne suis pas en recherche de gains.
Mais il faut quand même pas déconner, c'est nos enfants. On est tous là à se plaindre qu'on n'arrive pas à accéder à nos enfants. Les droits parentaux sont attaqués et l'État fait n'importe quoi. On est quand même, nous, en droit de se plaindre quelque part. Hein. C'est normal.
Mais la seule chose que je me pose, peut-être que là, c'est vous qui allez pouvoir me répondre, c'est que justement, la calomnie, etc., est-ce qu'il faut maintenir justement le combat et aller jusqu'au bout du bout à faire condamner mon ex-beau-frère, mon ex-belle-mère, etc., sur les propos qu'ils ont écrits
Là, il y a un problème. Je parle jamais de moi, mais par exemple, moi, j'ai posé 2 plaintes, on me l'a reproché. Parce qu'on est vindicatif, on nous reproche en fait d'essayer de nous défendre. Et très clairement, en permanence, ou quand on parle à d'autres personnes dans nos situations, on nous dit qu'on a de la présence, qu'on est vindicatif, qu'on ne se laisse pas faire, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas bien pour les enfants. Vous voyez, quand on estime que
C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il faut continuer ?
C'est une question à poser à un avocat, et ça, c'est du cas par cas. Et c'est une question, effectivement, qu'on se pose tout le temps, jusque où faut-il insister pour accéder à nos enfants sans les endommager ? C'est une question, c'est une vraie question, c'est une véritable question. C'est quand on commence à mettre toute la puissance de la machine qui marche mal et qui est une machine à broyeuse, veut accéder à nos enfants, eux ont des effets de bord, des effets secondaires, parce que l'autre parent leur met de la pression, parce que leur vie est déstabilisée, parce qu'ils sont très sollicités par beaucoup d'acteurs. Pas très bon pour les enfants. Moi, je pense que les enfants vont mieux lorsqu'il n'y a pas d'intervenant autour. C'est une opinion personnelle. Après, quand obligé de faire des procédures, je sais que moi, j'aime pas faire des procédures. J'essaie toujours de dire aux gens, entendez-vous, n'y allez pas, il faut pas, etc. Par contre, quand on est obligé de le faire, moi, je pense qu'il faut le faire en sorte que ça ne se reproduise plus et qu'on y aille une seule fois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours cet esprit peu, et tout pour ne pas y aller. Mais si j'y vais, après, c'est particulier, ça se dose. Hein. On n'est pas au tribunal de commerce, on n'est pas en gestion des endroits des affaires. On essaie de faire grandir nos gosses et d'y accéder, et c'est assez compliqué. C'est au cas par cas, c'est au ressenti, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend aussi du budget.
Oui, c'est du budget aussi, mais ce qui me dérange le plus, c'est que ça prend la tête, pour faire simple. C'est-à-dire
on fait rien d'autre. Ça, on se le dit tous. Hein. Si nous avions pu consacrer toute l'énergie, toute cette énergie qu'on dépense pour essayer de pouvoir éduquer nos enfants, si cette énergie et ces moyens étaient partis de notre carrière professionnelle, on aurait des vies très différentes, en fait.
Oui, c'est sûr.
Question indiscrète, là, aujourd'hui, vous, en frais de procédure, vous êtes à combien, à peu près ?
En frais de procédure ?
Vous avez dépensé combien, l'avocat, tout ça ?
L'ordonnance de protection, je crois que c'était 1200, ça, c'est la toute première. Ensuite, l'ordonnance de conciliation, ça devait être aussi plus de 1000 €. Ensuite, l'appel de l'ordonnance de conciliation, ça devait être aussi plus de 1000 €.
3002.
Et celle-là, là, l'agent judiciaire de l'État, donc je dois être à 5000 €, je pense, certainement des 5000.
Vous en sortez bien, j'en connais qui sont à 15 ou 20.
Mon avocate, c'est vrai qu'elle le sait, elle me le dit, qu'elle fonctionne au forfait, la mienne. Et en fait, dès le départ, il y a une relation de confiance qui s'est instituée entre nous.
D'accord.
Et c'est vrai que je le sais, j'ai comparé avec d'autres. Mais en fait, on grandit tous les deux d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle apprend de moi comme moi j'apprends d'elle. En fait.
Même, on est toujours vraiment tous en train d'apprendre, c'est un micro-domaine, avocat c'est gigantesque, notre partie à nous est toute petite, mais on est en permanence en train de l'apprendre. Vous, entre vous et vos enfants, ça va ? C'est la communication, le lien n'est pas rompu, vous avez réussi à...
Ah oui, j'ai réussi à maintenir le lien, les enfants sont très... les filles, à chaque fois, elles me sautent au cou quand elles arrivent.
Donc elles vous ont pourri auprès du pédopsychiatre, mais elles vous sautent au cou.
Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Et elles s'en veulent. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'elles s'en veulent, en fait. elles s'en veulent parce que, par exemple, là, ça commence maintenant, vu que je les vois un peu plus longtemps, on peut avoir des conversations un peu plus longues. Et vu qu'elles ont, mine de rien, en 2 ans, elles ont un petit peu mûri aussi, hein, d'une certaine façon. Donc, on entame le sujet qui fâche, etc. Oui, et voilà, papa, il a failli être condamné, parce que t'as dit que papa se levait la nuit pour te taper, mais pourquoi t'as dit ça, etc. Et je vois bien que ça les met mal à l'aise. Et il dit, oui, mais c'est parce que maman est dans la même pièce que moi, je voulais pas, mais bon, je voulais faire plaisir à maman, etc.
Ça, on en parlera prochainement. Je demande plusieurs avis. Je ferai une émission spéciale sur comment faut-il gérer dans ces situations-là, autant soit son propre ressenti, parce que c'est déstabilisant, hein, comment on fait pour éduquer un enfant après un truc comme ça.
Après, je ne sais pas si je fais bien d'en parler dès maintenant ou pas, mais.
Et comment on fait pour les enfants et autres? Donc, ça, je ferai intervenir un pédopsychiatre, un psychanalyste et autres, et puis un expert, et puis on en parlera dans une émission prochaine. Okay. Fabien, merci beaucoup. Bon courage.
Merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Merci.
Et puis, je vais tarder au courant dans ces cas-là, le 22 février, si j'ai réussi au moins à obtenir une garde après toutes ces péripéties.
Oui, voilà. C'est ça. Merci.
Merci. Au revoir.
Voilà, et ne croyez pas que cette histoire soit un acte isolé. Nous, au niveau des permanences, dans notre réseau, nous voyons arriver très souvent, mais vraiment extrêmement souvent, des parents, des papas, victimes d'accusations, dans le seul but, en fait, d'instrumentaliser les enfants dans le conflit et essayer de leur faire mal, de les punir, de les empêcher d'arriver à leurs enfants. Alors, il y a des phénomènes de mode, mais le nombre de plaintes que l'on voit arriver en permanence est quasiment toujours les mêmes, c'est juste que les thèmes changent. La grande constante est que l'auteur des calomnies n'est jamais puni, même lorsqu'elle reconnaît avoir menti, ou alors, si jamais elle l'est quand même extrêmement peu. Alors bien évidemment, il faut intervenir, protéger les enfants. C'est le signe d'une société évoluée que de s'occuper de nos enfants et d'essayer de les protéger. Mais nous avons aujourd'hui très clairement un problème d'instrumentalisation de tous ces dispositifs, et nous sommes obligés de constater, nous, parents, que ces dispositifs ne fonctionnent pas. Et donc, que nous ne sommes pas à l'abri si un jour l'autre parent décide de nous faire cela, et bien parfois, vous verrez dans l'émission suivante, carrément, de perdre ses enfants. Allez, soyez sages et à la semaine prochaine.
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture,